23. 9h22. Julot n'est pas arrivé. Le commandant Velika accrocha avec agacement son blouson de cuir au porte-manteau perroquet qui oscilla un moment avant de rétablir in extremis son équilibre, comme pour ne pas en rajouter à la colère du patron. Les autres policiers présents dans le bureau ne bougeaient guère plus que le porte-manteau. Le commandant portait particulièrement bien son prénom ce matin.
« Julot n'est pas arrivé !»
répéta Pétard incrédule. D'ordinaire, Julot était le dernier à quitter la brigade, et le premier à l'ouvrir le matin. Une aubaine pour s'autoriser quelques dernières galipettes sous les draps avec Nadège et se pointer au bureau le matin comme on entre chez soi le soir et que votre femme vous attend. Store levé, café fumant, ordinateur ronronnant. Sauf que ce matin, Jourdain Blanc-Martin l'avait appelé quelques secondes avant que Nadège ne vienne grimper sur lui. Ça avait suffi à le mettre en rogne pour la journée. Il en avait de bonnes, Jourdain Blanc-Martin, du haut de sa tour d'ivoire immaculée de la Villa La Lavera, avec son armée de Saint-Bernard. Traiter avec humanité tous les clandestins de la terre, traquer les filières de passeurs, effrayer ceux qui pourraient le devenir et, dans le même temps, retrouver l'assassin du directeur du service financier de Vogelzug.
« Il est passé où, le gamin ?» s'inquiéta Pétard.
Ryan répondit enfin.
« Il a dit qu'il devait se rendre à l'hôpital. »«
L'hôpital ?»
s'interrogea Pétard.
« Putain !»
Il manquerait plus maintenant que son adjoint lui claque entre les mains. Le lieutenant Julot Flores marchait lentement dans le grand jardin de l'hôpital Avicenne, fleuri de daturas et de jasmin, dominant d'une tête le professeur Waknin, l'hématologue le plus réputé de l'établissement, médecin-chef, spécialiste en maladies tropicales et en immunologie, conférencier dans une dizaine d'universités. Un type calme, âgé, cultivé, le genre proche de la retraite, mais qui n'a aucune envie de l'apprendre. Il parlait aussi lentement qu'il marchait, un pédagogue ayant appris à vulgariser ses connaissances pour les profanes, des patients inquiets aux étudiants entassés. Le genre passionnant le temps d'une consultation et soporifique en amphi. Waknin avait accepté de le rencontrer entre deux rendez-vous, lui avait proposé de marcher 5 minutes dans le parc pour profiter du soleil radieux, se coiffant d'un petit trilby en paille, sans pour autant quitter l'ombre des sentiers du jardin arboré.
« Lieutenant, avant de vous expliquer la relation entre le sang et la filiation, je dois vous préciser quelque chose d'important. Les différents groupes sanguins, les groupes A, B, O, si vous préférez, ne sont pas répartis également sur la Terre. Ces groupes sanguins proviennent des relations très anciennes des hommes à leur environnement, leur biotope, pour être précis, de l'alimentation notamment, ou de la résistance à des pathologies localisées. Au départ, je vous parle des temps préhistoriques. L'humanité tout entière appartenait au groupe O. Les groupes A et B ne sont apparus qu'entre 10 000 et 15 000 ans avant Jésus-Christ, en Asie, au Moyen-Orient et sur les pentes de l'Himalaya. Puis vont suivre les grandes migrations vers l'Europe pour faire naître le groupe AB, le plus rare, il y a moins de 12 siècles.
Julot n'osait pas interrompre le professeur, tout en se demandant pourquoi une question aussi simple que « peut-on déduire une paternité à partir d'une simple prise de sang ?» nécessitait de remonter au Jurassique.
Aujourd'hui encore, malgré le mélange des populations, les groupes sanguins restent inégalement répartis sur la planète. Ainsi, si tous les Amérindiens étaient à l'origine du groupe O, on ne trouve pas ou peu de représentants du groupe O négatif en Chine. À l'inverse, on rencontre une plus grande diversité biologique en Afrique. Par exemple, chez les Peuls, on a repéré une plus grande présence du groupe A et moins de représentants des groupes O et B, contrairement aux ethnies voisines.
Julot réfléchissait aux conséquences de ce que lui apprenait le professeur.
Cela signifie qu'à partir d'une prise de sang,
On peut estimer l'origine géographique d'un individu ?
Le professeur le regarda avec consternation. À se balader ainsi dans les jardins d'un centre hospitalier en compagnie d'un homme en blouse blanche, Julo avait l'impression d'être un fou qui ignore qu'il est le véritable sujet de la consultation. Le ton sarcastique de Waknin ne le rassura pas.
« Non, lieutenant ! Quelle idée ridicule ! Depuis la préhistoire, l'humanité s'est beaucoup mélangée, vous savez. Construire des murs, c'est très récent. Et même si la partie la plus développée de l'humanité se nourrit principalement de hamburgers, de kebabs et de pizzas, on n'a pas encore perçu d'adaptation du système sanguin de l'homme occidental à cette nouvelle forme d'alimentation. »
Il savoura l'effet de sa blague, apparemment bien rodée, puis redevint soudain sérieux.
« Voyez-vous, lieutenant, la diversité biologique des grands carrefours migratoires est même l'un des grands défis sanitaires que nous devons gérer. On trouve désormais des hommes et des femmes de tous les groupes dans les grandes villes du monde. Mais il n'en est pas de même pour les donneurs de sang. Le don de sang reste lié à des critères psychologiques, sociaux, voire religieux. Très concrètement, on manque de certains sangs à Marseille, ou à Paris, ou dans n'importe quelle métropole mondiale. On dépense une fortune dans des campagnes d'information ciblées vers certaines populations.
Le professeur Waknin ralentit encore sa marche, semblant tomber en admiration devant un bougainvillier en fleurs. « La recherche d'un sang rare, » pensa Julo. C'était une autre piste pouvant expliquer la prise de sang au poignet de François Valioni avant que son assassin ne lui taille les veines. Il s'entêtait pourtant sur sa première hypothèse.
« Mais, professeur, pour revenir à ma question de départ, à partir d'une analyse sanguine, on ne peut pas déduire de paternité, seulement l'infirmer. »
Exactement. Je vous ai apporté quelque chose qui va vous aider à comprendre.
Le professeur Waknin sortit une feuille de la serviette qu'il portait en bandoulière.
Le tableau complet des impossibilités. Vous détaillerez cela attentivement plus tard. Ce n'est pas sorcier, vous verrez. Même le plus idiot de mes étudiants arrive généralement à s'en sortir. »
Il s'assit sur une fontaine en pierre grise et invita Julo à s'installer à côté de lui.
« Regardez, il s'agit d'un simple tableau de 8 colonnes sur 8 lignes. Tous les types A, B, O, AB, positifs et négatifs, en colonne le sang du père, et en ligne le sang de la mère. La case représente les types de sang impossibles pour leurs enfants. Par exemple, 2 parents A+, c'est-à-dire à peu près le tiers de la population mondiale, ne peuvent pas avoir d'enfants AB ou B. 2 parents O+, ne pourront avoir que des enfants O. On peut être plus précis encore pour les groupes sanguins plus rares. 2 parents AB+, soit 3% de la population mondiale, ne peuvent pas avoir d'enfants O. De fait, rares sont les combinaisons sanguines de parents pouvant donner naissance à tous les groupes de sang possibles.
Julo gardait les yeux fixés sur le tableau.
Donc, professeur, pour résumer, si je connais mon groupe sanguin et celui de ma mère, je peux en déduire si mon père putatif n'est pas mon père.
Le professeur lui lança un regard admiratif, le premier, sans doute davantage censé souligner les qualités pédagogiques du médecin que celles intellectuelles de son élève.
« Bravo, lieutenant! Vous avez tout saisi! Vous pourrez affirmer avec une certitude scientifique que votre père supposé ne l'est pas si vous tombez sur une impossibilité de ce tableau.
Mais... vous ne pourrez jamais affirmer qu'il l'est.
Il n'a pas plus de chances d'être votre père que les millions d'autres hommes du même groupe sanguin qui se promènent sur Terre.
Julo arriva à la brigade un peu après 10 heures. Quelques autres flics, dont Ryan et Mehdi, allaient et venaient dans les couloirs. Le lieutenant Flores posa la photocopie du tableau des impossibilités de filiation sanguine sur son bureau et s'adressa à Pétard. « J'ai bien avancé en ce qui concerne le mystère de la prise de sang. Et vous ?»«
Rien. Je suis bloqué sur ces histoires de migrants. Ça me bouffe tout mon temps. Ça me bouffe mes hommes. Pendant que tu joues les Sherlock Holmes, moi, je suis cloîtré ici à faire du secrétariat entre les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur. 15 ambassades et des dizaines d'associations. »
Julo s'avança jusqu'au bureau de son patron.
« La seule chose que j'ai obtenue ce matin sur l'affaire Valioni,
grogna Pétard,
c'est qu'on m'accorde de placer un homme en permanence devant le Red Corner. »
Julo posa ses fesses sur le bureau et regarda son patron, étonné.
« Vous pensez qu'il pourrait y avoir un nouveau meurtre ?»«
Ouais. »«
Pourquoi ?»«
Le flair, gamin. Toute cette mise en scène, cette fille qui nous défie du regard, ce type qu'elle va piéger sur Internet comme si elle avait sélectionné sa cible. Je verrais bien ta petite amoureuse en mante religieuse. T'es pas d'accord ?»
Le lieutenant Flores prit le temps de la réflexion. Velika l'impressionnait. Julo, depuis le début de l'affaire, était tiraillé par la même intuition, mais jamais il n'aurait osé l'exprimer.
« Si, » concéda le lieutenant.
« Mais pourquoi mettre un homme devant le Red Corner ? Si Bambi 13 doit commettre un nouveau crime, il y a peu de chances qu'elle prenne le risque de retourner là-bas. »
Pétard cliqua nerveusement sur son ordinateur.
« T'as de ces questions, gamin. Quand une bombe explose dans une poubelle, viens pas me demander pourquoi on poste un homme devant pendant une semaine alors qu'il faudrait tomber sur le plus con des terroristes pour qu'ils choisissent deux fois la même.
Peut-être parce que si un terroriste débile le faisait et qu'on n'avait pas surveillé la poubelle, ça apparaîtrait comme la pire des incompétences. C'est humain, patron. On préfère toujours être accusé de zèle plutôt que de laxisme. C'est l'ironie du principe de précaution. Plus notre folie imagine des risques absurdes et plus notre raison invente des normes pour qu'ils ne se produisent jamais.
Pétard dévisagea son adjoint avec stupéfaction.
Salopard de petit génie. Tu sais que je bloque sur cette histoire de poubelle depuis des années et que tu viens de me l'expliquer comme si j'étais un gamin de CP.
Julo haussa les épaules, indifférent au compliment.
Élémentaire, patron. En attendant, votre Sherlock Holmes va continuer de s'amuser. J'aimerais en savoir plus sur ces foutus bracelets. Sur ce que Valioni est allé faire à Essaouira, sur ses coquillages des Maldives.
Ça attendra, Sherlock.
Julo avait déjà ôté une manche de sa veste. Il stoppa son geste.
Ça te dit d'aller te dégourdir les jambes ?
Proposa Pétard. Le lieutenant Flores avait le sentiment tenace qu'à chaque fois qu'il abordait la question de Vogelzug, son patron détournait la conversation. Une simple coïncidence ? Il laissa traîner son regard sur le ventre de Pétard qui boudinait sa chemise bleue.
« Vous me proposez un jogging sur le front de mer ?»
Pétard se leva d'un bond.
« Mieux que ça. Arrêtez un gamin qui a pour plan de carrière de faire fortune dans le trafic de clandestins. »
« Il fait quoi, ce gamin ?»«
Rien. » »«
Comment ça, rien ?»
Le commandant enfilait déjà son blouson.
« Cherche pas à comprendre, c'est de la prévention. »
Il orienta son regard vers l'écusson bleu-blanc-rouge accroché au-dessus de la poutre.
Une sorte de cousin germain du principe de précaution.
Julo hésitait à suivre son supérieur, même si visiblement Pétard ne lui laisserait pas le choix. Depuis qu'il était réveillé, il enchaînait tout ce qu'il détestait dans le métier. Parler de sang toute la matinée, procéder à une arrestation arme au poing, assister à une petite autopsie en fin de journée et ce serait complet. Instinctivement, ses yeux glissèrent vers l'écran de l'ordinateur de son patron. La photographie d'une ville africaine était affichée en gros plan. Une ville plate et poussiéreuse qui donnait l'impression d'avoir été construite sur le sable, sans béton ni goudron.
« C'est où, patron ?»«
Cotonou, au Bénin. » »« C'est de là que viennent la plupart des types qu'on a coincés hier. L'ambassade nous emmerde avec les papiers et
Je peux regarder ?
Julo se penchait déjà sur l'écran.
Tu comptes passer tes vacances là-bas ?
Le lieutenant Flores ne répondit pas. Un détail l'intriguait. Un détail presque surréaliste. Sur le moment, il avait cru être victime d'une hallucination. Dans le paysage de Cotonou, presque uniquement constitué de maisons basses, de toits de tôle et d'échafaudages de quelques étages, une tour, une seule tour, écrasait la ville. Julo se tourna vers Ryan, qui apportait deux gilets de Kevlar bleu.
« C'est quoi, Ryan, ce monument ?»
Le flic jeta un regard rapide.
« La tour de la BCEAO, je crois. »
« La quoi ?»«
La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. La Banque du franc CFA. 8 pays, des millions de clients. La zone euro de l'Afrique de l'Ouest, si vous voulez. Et les tours de la BCEAO en sont les cathédrales. Les seuls gratte-ciel des capitales. Elles dominent le paysage à Dakar, Abidjan, Ouagadougou, Bamako, Lomé. Comme pour bien rappeler la puissance de l'argent au crève-la-faim. »
Le commandant interrompit le lieutenant El Fassi et se tourna agacé vers Julo.
C'est quoi, gamin, ta nouvelle lubie ?
Julo ne releva même pas la tête. Penché sur l'ordinateur, il dirigeait la souris pour zoomer sur la photo. La tour de la BCEAO de Cotonou apparut en gros plan.
Regardez, patron !
Pétard regarda. Ryan aussi.
Nom de Dieu !
Les deux flics écarquillaient les mêmes yeux incrédules. Le long de la tour de la BCEAO à Cotonou, on distinguait quatre lignes verticales blanches. Julo zooma encore. Cette fois, on repérait parfaitement les éléments de décoration qui ornaient les 17 étages de la tour de béton. Quatre lignes. 4 × 13 coquillages géants. Les mêmes. Strictement les mêmes que ceux trouvés dans la poche de François Valioni. Le doute n'était pas permis. Ces coquillages de quelques centimètres, censés provenir uniquement des Maldives, étaient reproduits en une cinquantaine de sculptures d'un mètre chacune, visibles partout de Cotonou.
« Merde !» bougonna Pétard en se tournant vers le lieutenant. « C'est quoi ce bordel ?»«
J'en sais rien !»
répondit Ryan en lançant les gilets de Kevlar.
« Mais si on part pas tout de suite pour la cité de l'Olympe, on va rater notre rendez-vous.